Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Un peu d'air frais, une émission de reportage sur l'écologie au quotidien.
Searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost switching, there's a soldering blue line between my eyes. Cut me a quadrant. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner.
Mais une place qui laisse de la place à nos yeux à nos esprits et à nos rêves, dans l'espace urbain et dans l'espace rural. Nous souhaitons donc que la taille de l'affichage maximale soit de 50 cm par 70 cm, c'est-à-dire la taille de l'affichage associatif en vigueur dans nombreuses villes de France. Pour cela, nous barbouillons, c'est-à-dire nous inscrivons des messages à la peinture, et certaines personnes pensent que ce n'est pas bien, notamment les législateurs peut-être, ou la police, et celle-ci donc exerce son métier et arrête les personnes qui ont marqué ces messages. Nous, au contraire, assumons ce choix. Nous choisissons la légitime réponse, c'est-à-dire de répondre au matraquage publicitaire, d'inscrire notre message, et nous choisissons par ce mode d'interpeller aussi bien le public que les médias, que les élus. Voilà, nous demandons un débat national sur le fonctionnement des systèmes publicitaires, sur la place de la publicité dans l'espace public et sur la place de la publicité dans l'ensemble de nos vies, dans l'éducation nationale, dans la façon de vivre, dans le choix quotidien basé sur la production et la consommation. Voilà, nous essayons d'ouvrir des débats et tout à l'heure, il sera possible de prendre la parole pour qui le souhaite, lire un petit texte, poser une question, exprimer quelque chose, un témoignage sur ce sujet-là, voilà.
Donc, le collectif des déboulonneurs va bientôt connaître son 12e procès en 4 ans. Ce procès va avoir lieu au Palais de justice de Paris le 12 mars à 9h du matin. Trois personnes ont décidé d'être nos témoins pour le 12 mars. Le professeur Claude Gault, qui est un professeur en médecine, qui a vu pendant toute sa carrière arriver des victimes de la publicité sur des brancards, puisqu'il travaillait à l'hôpital Ambroise Paré, et qu'il est devenu à ce moment-là un grand ennemi de la vitesse automobile, en même temps qu'il est un grand adversaire de la publicité pour l'alcool et la publicité pour le tabac. Donc le professeur Claude Gault va venir témoigner. Autre personne, le sénateur vert Jacques Muller, sénateur alsacien, sera au palais de justice pour justifier la nécessité de résister et de désobéir. Enfin, Hervé Kempf, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle quelque chose, pour sauver la planète, sortez du capitalisme, viendra lui aussi expliquer en quoi la publicité est une nuisance pour l'environnement. Enfin, peut-être que demain ou après-demain, nous aurons la bonne nouvelle d'apprendre qu'un grand philosophe qui s'appelle Edgar Morin sera notre témoin. Nous en aurons probablement la confirmation. Il est des nôtres. Edgar Morin est un vieux compagnon de route de notre combat. Il nous a écrit pour dire que de toute façon, s'il ne pouvait pas venir au tribunal, parce qu'il est très âgé, il écrirait une lettre au juge. Voilà, donc nous sommes bien entourés. L'agence France Presse s'intéresse déjà à ce procès. Elle sera présente au tribunal. Reste l'opinion publique, la population. Espérons que ce jour-là, les deux barbouilleurs qui passeront en procès seront entourés par le plus de monde possible. Je précise que ces deux barbouilleurs sont poursuivis pour une action telle que celle à laquelle vous allez assister aujourd'hui, exactement la même action, qui a eu lieu il y a 2 ans, en janvier 2008, sur les Champs-Élysées. Et ce jour-là, il y avait 8 barbouilleurs. Mais la police n'en a arrêté que 2. Les 6 autres se portent comparants volontaires et donc viendront au tribunal pour demander au juge de les juger. Ces 6 personnes courent donc les mêmes risques que les 2 qui sont officiellement poursuivis. Les comparants volontaires sont le signe absolu de la légitimité de notre cause et du fait que nous ne sommes pas des vandales, contrairement aux publicitaires qui, eux, vandalisent le paysage à tire-larigot, nous sommes plutôt des hommes ou des femmes de ménage. Nous faisons le ménage dans le paysage et nous ramassons les déjections laissées par les publicitaires n'importe où. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vous remercie de votre attention et bon barbouillage.
Non,
nous allons nous rendre donc tout de suite sur le lieu. Avant qu'on y aille, je rappelle juste le principe. Donc nous sommes dans une action non violente, c'est-à-dire que les personnes qui vont barbouiller se sont déjà fait connaître au préalable. S'il y en a qui sont intéressés, nous pouvons vous faire participer à une action plus tard. Vous pouvez participer à ce processus, mais il faut déjà que vous vous manifestiez au préalable. Si la police intervient, nous ne nous opposerons pas à elle. Il y a des fortes chances qu'elle intervienne, qu'elle arrête les personnes pour un contrôle d'identité et pour une déposition ensuite au commissariat ou au SARI. Nous les laisserons faire, donc chacun exerce son rôle. Toutefois, le soutien que le public apporte à cette action est évidemment vital, crucial dans le rapport de force. Et c'est notre attitude cordiale et non violente qui fait notre force et qui fait que la police restera aussi courtoise, voire non violente. Je vous remercie et je vous invite donc à participer, à nous suivre maintenant. Agissant courtoisement en dégradant symboliquement les panneaux de publicité en utilisant l'argument de la légitime réponse, c'est-à-dire le droit à répondre à des messages imposés, et nous demandons que l'espace public soit libéré de l'emprise publicitaire. Nous demandons que la taille maximale de l'affichage soit de 50 cm par 70 cm, c'est-à-dire la taille de l'affichage associatif. Nous demandons le droit à la liberté de réception. Les barbouilleurs agissent donc calmement dans la non-violence. Ils assument leurs actes, sont prêts à se laisser arrêter par la police, sont prêts à aller jusqu'au procès. Pour faire progresser la société, pour humaniser la société, pour nous offrir plus de liberté.
Bravo!
Bravo! Nous pouvons saluer également l'attitude courtoise de la police. Nous dégradons réellement les panneaux. Mais de manière symbolique, et la police nous arrête réellement, mais de manière symbolique aussi, on pourrait le dire.
C'était pas là, madame, je vais vous remonter sur ce bois.
Il faut réagir, il ne faut pas être un consommateur, vous avez raison, il ne faut pas réagir en consommateur qui subit et qui se fait envahir. Moi-même, je fais de la pub, mais j'évite de faire de la pub qui agresse. Je veux dire, on fait de la pub dans les journaux, on fait de la pub radio, ça ne pollue pas. Quoi. Là, il y a des limites aujourd'hui à la consommation. Je trouve ça très très bien.
Merci beaucoup.
Le seul bon truc, voilà.
Le micro est ouvert si certaines d'entre vous souhaitent s'exprimer sur ce sujet ou sur un autre. On vous laisse la place. propose une autre chanson, car vous êtes très très sage et très silencieux. Alors ça s'appelle, c'est un morceau qui est un peu guerrier, qui est un peu sujet à polémique apparemment. Enfin, parce que c'était écrit dans un contexte historique où la bataille sanglante était très enchantée. Ça s'appelle la Marseillaise normalement.
Bernard Arnault, mais c'est la première
fois. Ah. Allons, enfants, et esprits libres, l'heure de la révolte a sonné. Assez de cette tyrannie, luttons contre la publicité. Luttons contre la publicité. Dans nos villes et dans nos campagnes surgissent ces féroces panneaux. Ils viennent jusque dans le métro agresser nos fils et nos compagnes. Aux bombes citoyens, ôtez vos capuchons. Barbouillons, que la peinture, je suis bien d'accord, macule tous ces étrons. Exactement. Voilà, madame vient de nous apporter son témoignage qui dit d'accord que cette chanson originale est absolument atroce. Elle est contre la violence qu'elle a subie à cause de la guerre et nous sommes contre la violence publicitaire que nous inflige le système publicitaire.
Voilà, là, ma cicatrice, là, c'est un obus qui m'est dansé dans la gueule pendant la guerre d'Algérie. Alors, ça va.
Voilà, il y a les obus physiques, il y a les obus psychiques. Et là, on est un petit peu cerné par les obus psychiques. Un bel échantillon de notre espace quotidien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui veut poser une question?
Une question.
Bonjour. Attention, vous traversez une zone de libération de l'espace publicitaire. Nous sommes en soutien à nos compagnons barbouilleurs et la manifestation se dissout quand les camions partent. Comme nous sommes dans une logique de désobéissance civile, nous resterons tout à fait non violents, bien sûr. Et joyeux même. C'est vrai, il y a d'autres panneaux en face, bien tentants. Garde à vue, comme chacun le pense, mais en période de rétention, c'est-à-dire la période qui correspond
au contrôle d'identité.
Est-ce que Résistance à l'agression publicitaire est à l'initiative des déboulonneurs ?
Je pense que non. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, les personnes qui ont un peu impulsé les déboulonneurs étaient aussi auparavant des membres actifs de RAP. Après, voilà, le lien, il est humain, si vous voulez, c'est un peu les mêmes personnes, mais bon, il n'y a pas de lien entre les deux, sinon. Quoi.
Et alors, depuis combien de temps existent RAP et puis les déboulonneurs ?
RAP, ça fait plus de 15 ans. Hein. Je crois que c'est en fait une association précurseur dans la problématique anti-publicitaire. Donc oui, c'est l'association historique, quoi. Tandis que les déboulonneurs ont été montés en 2003.
La genèse du collectif, ça s'est fait sur l'année 2004-2005 suite aux actions anti-pub du métro de 2003.
Et en fait, maintenant, vous vous réunissez. Enfin, il y a des actions des déboulonneurs tous les mois, c'est ça ?
Alors, ça dépend des villes, parce qu'en fait, il y a plusieurs collectifs actifs en France. Donc, il y a un collectif à Rouen, un à Évreux, un à Lille, un à Lyon, un à Bordeaux, un Clermont-Ferrand, un Tours. Bon, je ne sais plus, il y en a beaucoup. Il y a le site desboulonneurs.org. Et donc, ça dépend des rythmes des collectifs. Il y a des rythmes, ça peut être mensuel. À Paris, on fait une action par mois. Et là, c'était la 43e action. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait chaque mois, sauf le mois de juillet et le mois d'août de chaque année, depuis octobre 2005.
Voilà. Vous arrivez à mobiliser du monde là, depuis tout ce temps-là ?
Ben, y a toujours du monde, il y a du renouvellement. Y a toujours entre 30 et 120 personnes. Mais ce n'est pas forcément les mêmes têtes. Il y a des têtes qu'on retrouve, il y a des têtes totalement nouvelles qu'on voit qu'une fois, qu'on ne voit jamais. Plus les gens qui passent, etc. Puis après, il y a la résonance médiatique des médias alternatifs, des médias locaux, des médias de plus grande diffusion, etc. Donc c'est aussi c'est un fonctionnement qui fonctionne avec sa résonance. Quoi.
Et donc là, depuis quelques temps, en fait, ça fait peut-être même plusieurs années, je ne sais pas, parce qu'au début, il n'y avait pas d'arrestation. Et là, maintenant, systématiquement, il y a des arrestations.
Alors en fait, au début, on n'annonçait pas les actions publiquement. Ça veut dire qu'on donnait le lieu de rendez-vous qu'au dernier moment. La date et l'heure étaient connues, mais le lieu, non. Et donc, on attendait, en fait, comme on expérimentait un mode d'action de désobéissance civile qui n'avait jamais été pratiqué nulle part, donc on a été progressivement pour que l'action ait vraiment lieu, parce qu'on se disait, si la police est déjà présente et qu'on ne peut pas atteindre le panneau, l'action est ratée. Donc, notre but, c'était de pouvoir vraiment mettre un message sur les panneaux. Et donc, au début, on ne prévenait pas publiquement. Puis, au bout d'un moment, quand on était rodé, puis qu'on voyait que la police s'arrêtait, mais ne nous arrêtait pas. ce qui est paradoxal, mais bon, au début, on trouvait ça bien. Et puis, finalement, on se disait, mais voilà, il y a quelque chose qui est anormal quand même là-dedans. Puis, on transgresse la loi et il n'y a pas de... Pourquoi est-ce que nous, on serait pas même soumis au même régime que les autres citoyens, quoi. Et donc, on a annoncé publiquement. C'était un grand débat. Un débat interne, on a choisi d'annoncer publiquement sur le site, et là, à partir de là, la police est venue systématiquement, sans exception, a toujours été présente sur le lieu de rendez-vous avant nous, en dépêchant parfois jusqu'à 8 quarts. On a eu des dispositifs avec 200 policiers alors qu'on était qu'on était 40, enfin c'est vraiment le maximum, et on a eu des très gros dispositifs déployés dans le 8e arrondissement, autour du Grand Palais, sur les Champs-Élysées. En fait, disons dans les zones de l'ouest de Paris, on a eu souvent des très gros dispositifs et des arrestations qui se sont en général bien passées. Parfois, il y en a une ou deux qui ont été un peu plus musclées, où en fait la communication avait moins bien été orchestrée avec eux. Et donc, comme ils ne savaient pas qui on était au départ, il y en a qui allaient de manière un peu plus musclée. Mais maintenant, le contact est établi. Dès qu'on arrive sur les lieux, on va à la rencontre des policiers. On va leur expliquer, au cas où ils ne connaîtraient pas, que nos intentions sont de nous laisser arrêter s'il y a des arrestations et qu'on n'entravera pas le travail de la police, dans ce cadre-là en tout cas.
Et c'est toujours les mêmes personnes qui sont arrêtées ou à chaque fois vous renouvelez le...
Absolument pas, c'est pas les mêmes. Il y a des personnes qui sont récurrentes parce que ça crée une addiction. Non, je rigole. C'est pas vrai. Si, ça fait des bonnes sensations en fait, c'est vrai. Mais Il y a un... ah, non, mais c'est vrai, j'ai eu du mal à arrêter de barbouiller à un moment.
Avec Saline, c'est pareil, il ne peut pas arrêter, quoi.
Il y a un côté jouissif à tenir une bombe aérosol de peinture, à maculer le panneau de pub, à écrire un message, déjà à le faire. Il y a un genre d'adrénaline qui existe. Et après, quand on le fait en public, il y a une autre adrénaline. Et quand on le fait devant la police, il y a encore plus d'adrénaline. Et après, c'est pas l'adrénaline qu'on cherche, mais il se trouve que c'est un fait. Mais ensuite, quand on se retrouve dans le panier à salade, enfin embarqué dans la fourgonnette avec les copains et qu'on raconte comment ça s'est passé et qu'on rigole et que finalement au commissariat, c'est complètement surréaliste parce que et donc on reste quand même très, très joyeux, très simple et en assumant notre action, ça crée des situations délirantes par rapport aux officiers de police qui, au bout d'un moment, commencent à s'humaniser, à nous tutoyer parfois, enfin, on finit par se tutoyer, ils commencent à nous raconter leurs anecdotes, à nous encourager dans notre action. On a eu des aveux de commissaires, on a une lettre d'un procureur qui nous encourageait dans nos actions. On a des trucs mais délirants, quoi, des capitaines, des commissaires, des officiers de police de base qui finalement trouvaient que c'était bien parce qu'on était dans une démarche civique, non violente et que voilà, ils comprenaient notre démarche, enfin l'aspect philosophique, politique. Et que c'était pas une action de vandalisme, comme on peut percevoir à travers d'autres actions, mais c'était bien une démarche pour faire progresser la société. Et notre courtoisie fait que eux, c'est pareil, leur boulot du coup il est plus agréable que d'habitude où ils sont en train de se rentrer dedans, d'aller au forcing et tout. Et donc finalement ça se passe super bien et on a à chaque fois des choses délirantes qui se passent dans les commissariats, dans les lieux en arrêté, dans les sarriches, etc. Ce qui fait que la fois d'après, on a ça en tête et que quand on repart pour barbouiller, on sait qu'après il y a une arrestation et qu'il va encore se passer des trucs et tout. Donc c'est vrai, il y a la facette visible du barbouillage et la facette de l'arrestation qui peut être rigolote. Moi je précise que sur Paris ça se passe bien, mais qu'il y a certaines villes où c'est moins simple. À Amiens par exemple, quand ils ont fait leur première action, ça s'est mal passé, ils ont été en garde à vue tout de suite, ils ont relevé de signalétique, procureur très très dur, etc. Donc bon, après il y a des histoires de mentalité qui existent aussi. La loi prévoit pour les dégradations jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement, mais c'est dans les cas les plus graves. Là c'est pas des peines lourdes qu'on encourt, dans le sens où ce ne sont pas des dégradations lourdes, ce sont des dégradations symboliques, donc c'est plutôt des peines symboliques. Et dans les réquisitoires qu'on a eus, les peines les plus lourdes demandées, donc requises, mais qui n'ont pas été finalement obtenues en verdict, c'est 500 euros. Dans les faits concrets, on est dans les 200 euros, fermes. Il y a eu un sursis pour une personne qui était récidiviste de désobéissance civile sur des actions de fauchage volontaire. Et il y a eu aussi une autre peine, mais qui était mêlée à du refus de signalétique, justement pour Amiens, où on était sur du 500 euros. Mais sinon, on a eu 1 euro symbolique. On a eu dispense de peine, ça veut dire la peine est reconnue, mais il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de condamnation. On a des résultats très très encourageants. On a des libellés de juges qui comprennent la démarche politique. Et il faut aussi rappeler qu'on fait intervenir quand même des témoins très prestigieux dans le monde médical, dans le monde politique, dans le monde associatif, etc., qui viennent parler des conséquences du système publicitaire ou de l'impossibilité d'agir de manière civique, démocratique, politique, parce que il y a une voie... on pratique la désobéissance civile parce que les autres voies échouent.
Et en fait, est-ce que ça fait avancer alors la cause antipublicitaire ?
Je crois que ça l'a fait avancer dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés, y compris dans les classes politiques. Le gouvernement sait qu'on existe, on a été reçu par différentes instances techniques ou politiques du ministère de l'Environnement, sans se faire d'illusions. Nous on joue le jeu, on voit qu'on ne se fait pas d'illusions en y allant et on a les conséquences d'ailleurs, mais en tout cas ça nous permet aussi d'affirmer au juge que quand on pratique les voies légales, ça ne fonctionne pas.
Donc là en fait c'est ça. La différence avec RAP, Résistance à l'agression publicitaire, c'est que là vous êtes dans les actions légales en fait.
voilà, c'est on RAP, Résistance à l'agression publicitaire, c'est une association légaliste dans son fonctionnement, c'est-à-dire elle se bat pour faire prendre conscience des procédés de manipulation, d'envahissement de la publicité. Mais elle utilise, même si c'est par l'humour et la non-violence, ce sont que des recours légaux. Nous, on choisit effectivement l'illégalité, mais dans une logique de désobéissance civile, pour aller plus loin et pour mettre la pression sur les élus.
Les deux modes d'action, enfin les deux façons d'agir se complètent aussi, puisque l'action de RRAP a une portée en termes de sensibilisation, notamment des enfants, la publicité, tout le problème de la publicité dans les écoles, etc. Et nous, les déboulonneurs, bon, c'est plus un mode d'action coup de poing, mais qui va effectivement plus loin que RAP. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement complémentaire, quoi.
En fait, on choisit de ne pas s'attaquer au contenu. Non pas qu'on ait... ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une critique du contenu. Mais on choisit vraiment de s'attaquer au système d'affichage et donc on choisit des panneaux déroulants pour bien montrer qu'on ne vise pas une publicité en particulier. Là, il y a une publicité horriblement sexiste, voilà, qui est immonde, ce que veulent les femmes. Bon, on pourrait commenter ça. Ouais, elle vaut, rien que celle-là, elle vaut le détour. Ce que veulent les femmes. Bah, je veux bien l'analyser, celle-là, dire ce qu'il y a derrière. Mais on ne vise pas celle-là en particulier. On vise toutes les affiches, on vise le dispositif gigantesque. Le côté industriel répété, 1 million d'affiches en France, des panneaux de 4 mètres par 3 gigantesques ou des bâches plus grandes, ce qui n'empêche pas qu'on critique le contenu. Donc on prend des panneaux déroulants sous verre pour bien montrer que ce n'est pas une pub. En particulier, ce n'est pas une entreprise qu'on vise, ce n'est pas McDonald's ou l'entreprise de lingerie, c'est tout le système. C'est tout le système publicitaire. Il se trouve qu'il y a énormément de faux chantiers et de fausses palissades pour pouvoir implanter encore plus de panneaux que ce qui est prévu normalement par la loi. Parce que quand on est sur un dispositif temporaire de travaux, il est possible de mettre des panneaux publicitaires. RLP, c'est Règlement local de publicité, c'est une manière d'adapter la loi de 1979 qui régit l'affichage publicitaire. Normalement, c'est pour le corser, mais dans les faits, en fait, c'est pour l'assouplir. Donc, c'est très bizarre. C'est-à-dire, par exemple, à Paris, normalement, il y a une zone de protection aux abords des monuments. Mais si on appliquait réellement la loi, il y aurait la moitié des panneaux qui disparaîtraient. Donc, le règlement local de publicité a créé un assouplissement pour permettre de mettre plus de publicité. C'est un exemple, voilà, pour comprendre. Mais il y a des milliers de règlements locaux de publicité différents qui ont été élaborés conjointement entre des publicitaires et des politiciens locaux en général, et parfois les consultations d'associations de protection du patrimoine, du paysage, mais pas de... Enfin bon, voilà. Et donc voilà, donc ces fausses palissades qu'on croise un peu partout, et ben effectivement, il y a des panneaux de pub dessus, alors parfois il y a des vrais chantiers, mais il y a aussi nombre de faux chantiers comme celui-ci.
L'action qui avait été qui avait eu un retentissement assez important, c'était la fausse palissade sur le Grand Palais en novembre 2008, où c'était une société d'avions, hein, il me semble, qui avait installé une bâche gigantesque sur toute la
350 000 carrés.
Sur toute la partie, la façade nord.
Non, 3500 mètres carrés.
Du bâtiment du Grand Palais. Donc c'était gigantesque et c'était en fait, ils avaient profité d'une faille réglementaire entre l'interdiction d'apposer de la publicité sur les monuments historiques et la possibilité, l'autorisation d'apposer des publicités sur les palissades. Donc ils avaient installé une palissade sur un monument historique. Et voilà.
Oui, ils le font, ils ont mis ça sur la tour Montparnasse, ils ont mis ça sur le petit palais. Mais le Grand Palais quand même, ça faisait. Je ne sais plus exactement les dimensions, mais c'était quelque chose comme 70 mètres ou 90 mètres de longueur sur 50 mètres de hauteur. Il faut imaginer la taille, quoi. 90 mètres de longueur, enfin, voilà, c'est délirant.
Et vous êtes tous les deux au Déboulonneur et à RAP?
Oui.
On a la double casse.
Alors, le collectif des Déboulonneurs, ce n'est pas une association. Enfin, c'est une association de fait, parce que... Un regroupement de personnes, c'est une association de fait, mais il n'y a pas de statut juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de structure qui fait qu'il n'y a pas quelqu'un vers qui on peut se retourner. Alors que RAP, c'est une association déposée, loi 1901, etc. Donc il y a un bureau, président, trésorier. Le choix de la désobéissance civile fait qu'on s'est fondé en collectif de sorte à ce qu'on soit plus libre, plus souple, et surtout que chacun soit responsable de ses actes et qu'il n'y ait pas une personne qu'on puisse faire tomber, que le collectif existe quoi qu'il advienne, quelle que soit l'issue de procès. Le désavantage d'une association, c'est qu'une entreprise peut essayer de la faire tomber en lui demandant par exemple une réparation de préjudice financier, et après l'association essaie de survivre en récoltant des fonds, alors que là on n'a pas sauvegardé une association, le collectif fonctionne sur les énergies de chacun, l'implication de chacun.
Et la finalité de RAP et des Déboulonneurs, c'est la même ?
Finalement, elles se rejoignent. Il y a une finalité aussi bien humaniste qu'environnementaliste. Il y a préserver l'environnement physique et l'environnement mental. Ça veut dire aussi bien des techniques de propagande aussi bien l'aliénation mentale que des techniques de propagande, quelles qu'elles soient. Et donc, on s'attaque à l'envahissement quantitatif et aux méthodes qualitative entre guillemets, enfin la façon dont passent les messages avec les idéologies, avec les valeurs, etc. Donc on a une critique globale du système publicitaire, mais la différence c'est que les Déboulonneurs ont choisi un angle d'attaque précis qui est celui de l'affichage, c'est-à-dire la publicité qui a pignon sur rue. On s'attaque pas directement, on la critique aussi, mais on s'attaque pas directement à la publicité qu'il y a sur Internet ou des modèles couplés publicité Internet. On s'attaque pas à la publicité à la télévision. Moi, je serais plutôt partisan de dire arrêtez la télé, voilà, mais et commencer à vivre d'autres choses. Voilà, on s'attaque pas au problème de la publicité aux médias directement, frontalement, parce que c'est encore plus compliqué. Et l'affichage, c'est quelque chose qui est immédiat. C'est l'espace public qui est en train d'être privatisé. Et on a moyen d'y agir tout de suite, par exemple en prenant une bombe à aérosol de peinture et en mettant un message. Alors qu'une télé, bon, je peux pas. Si, on peut faire sauter une antenne, on peut envahir un studio, mais c'est plus compliqué d'interrompre ou de détourner un message publicitaire. Et encore plus difficile d'avoir un débat chez les médias qui vivent de la publicité, bien évidemment, quoi. Donc on peut dire qu'on a la même finalité, c'est de faire prendre conscience des problèmes du système publicitaire. On est contre la publicité dans ses techniques d'envahissement et d'intrusion. On a une réflexion critique sur les idéologies. Et au final, RAP, donc Résistance à l'agression publicitaire, a adopté les revendications du collectif des Déboulonneurs, c'est-à-dire par rapport à l'affichage et par rapport aux propositions que nous faisons. C'est-à-dire, on conçoit que la publicité, dans le sens étymologique du terme, rendre public publicité, c'est-à-dire rendre public une information, ça soit tolérable à partir du moment où ce n'est pas imposé aux gens. Et un affichage mesuré, cadré, qui n'utilise pas un dispositif énergivore, qui n'utilise pas des techniques de manipulation, quelque chose qui soit plus petit, comme l'affichage associatif par exemple, où la démarche volontaire de quelqu'un permet d'aller rechercher cette information, on trouve que c'est un meilleur modèle que des modèles gigantesques d'affichage tel qu'on le vit en France. Si on arrivait à obtenir la satisfaction de nos revendications, c'est-à-dire avoir 50 cm par 70 cm, on aurait 99,2% des affichages qui sauteraient en France. Ça, c'est la parole du président du syndicat des afficheurs par rapport à nous, à nos revendications, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme si, en fait, on faisait sauter toute la publicité d'affichage. Et si on avait une libération de l'espace public des publicités, d'un coup, on aurait un champ visuel libéré, aussi bien dans les espaces ruraux que les espaces urbains. Et bien, c'est autant de place pour mettre... des arbres, mettre de la poésie, mettre des peintures, mettre des créations provisoires ou du rien, de l'architecture simple, de la couleur simple, peu importe, mais pas un message à finalité commerciale ou l'injonction unique est consomme, 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 où quand on traverse un espace, voilà, on devient nécessairement consommateur, quoi.
Et donc ça se termine pas toujours bien. Je sais que tu as une histoire avec un autocollant que tu avais collé dans le métro.
C'est vrai, j'ai eu plusieurs histoires, mais non celle-là. Ça s'est bien terminé, puisque grâce à mon refus de vouloir payer l'amende pour avoir mis un autocollant, donc qui était un autocollant humoristique de sensibilisation anti-publicitaire, qui mettait. C'est un détournement d'un autocollant de la SNCF, le petit lapin qui dit attention, ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort. C'était attention, ne pose pas tes yeux sur les publicités, tu risques de te faire manipuler très fort. Eh bien, bon, mon petit autocollant face aux dizaines de milliers d'affiches n'a pas été apprécié de la police ferroviaire, qui a compris quand même mon geste, mais qui a persisté à me verbaliser. Et moi, j'ai refusé de me faire verbaliser, j'ai préféré avoir un procès. Et le procès m'a permis de m'expliquer devant un juge, qui est aussi un avocat. Et en même temps, surtout, d'avoir à nouveau des tribunes dans différents espaces radiophoniques ou de presse pour soulever la problématique. Est-ce que la finalité de la SNCF, c'est accaparer le cerveau des gens pour le vendre des produits dont ils n'ont pas besoin, ou est-ce que c'est le transport? Est-ce que quand on parle de développement durable, soi-disant développement durable, est-ce que la SNCF a vocation à mettre des publicités pour les voitures dans ses halls de gare, quoi? Voilà.
Et donc ça s'est terminé comment?
Ça s'est terminé finalement à une condamnation de 75 euros. Ce qui était l'amende initiale, c'était 45 euros plus les frais de dossier. Donc on retombait sur le même prix, mais en étant passé par une médiatisation. Du coup, ça valait le coup de refuser, parce que si on a un peu l'énergie, bah, mine de rien, ça fait encore passer des idées. Et voilà, quoi, c'est ça le geste de sensibiliser par un autocollant. Bah, et c'est transformé en sensibilisation plus vaste.
Ça a été toute une action, enfin toute une organisation. Enfin, c'était pas porté ni par les débouleurs ni par RAP, si je me souviens. C'était une.
C'était une action individuelle.
Voilà, une action individuelle. Après, bon, vu que c'est toi, on était tous sollicités, on a tous été soutien de cette action-là, mais c'est encore une façon d'agir, une autre démarche individuelle, mais bon, qui recroise RAP, les déboulonneurs, tous ces mouvements-là. C'est ça,
oui, oui. Bah, c'est ça, on est pour multiplier.
Multiplier
les actions, les moyens. On discutait tout à l'heure, est-ce que c'est pertinent d'agir dans l'illégalité, d'agir dans la clandestinité? Oui. Moi, ce que je prône, c'est la non-violence. Je crois aux vertus de la non-violence dans la transformation de la société, dans la transformation des personnes. Ça veut dire une action violente, elle va avoir un effet, mais elle va avoir un contre-effet en même temps. Le côté libérateur de celui qui commet l'acte sans l'assumer, finalement, il se retourne contre tout le monde en justifiant... En donnant de la matière pour justifier la répression, etc. Donc moi, par exemple, quand je vois des actions violentes et qu'il y a des sans-papiers dans la manif et que les gars ils sont pas là, ensuite quand la police tombe, voilà, moi je peux pas être solidaire. Enfin, je peux pas me retrouver dans une action comme ça que je trouve inhumaine. Et c'est évident que j'ai pas envie de construire une société non violente en me servant de techniques violentes. Moi, je souffre de la société violente et donc je préfère construire une culture de non-violence. Mais je souhaite trouver des moyens concrets d'action. Ça veut dire c'est la non-violence, c'est pas la passivité, c'est une activité, mais en trouvant d'autres leviers. C'est créer un rapport de force autrement. Et après, donc le fait de choisir la désobéissance civile, c'est assumer l'acte, mais le fait de pratiquer des actions non-violentes sans assumer toutes les conséquences, je trouve ça déjà tout à fait honorable. Rien que le fait d'être actif et d'avoir un geste politique, parce que c'est politique, pas politicien, c'est politique dans le sens de s'occuper de son cadre de vie, de son quotidien. Le fait de vouloir, il n'y a pas que la publicité, il y a beaucoup de thèmes qui sont connexes, ça va, la vidéosurveillance, les contrôles biométriques, les nanotechnologies, les sans-papiers, enfin différentes répressions qui existent avec l'arsenal juridique ou technologique aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des personnes qui choisissent des techniques de résistance basées sur la non-violence, mais qui ont pour but une pédagogie en faveur d'un petit cercle ou d'un plus grand cercle, c'est bien. Et des actions clandestines ont peut-être touché quelques personnes. Et c'est comme ça, chacun a une trace qui laisse des traces, et c'est déjà énorme. S'il y avait plus de monde, les gens diraient oui, ça sert à rien, vous êtes tout seul. Oui, ça sert à rien. Moi, déjà, je suis pas d'accord, ça sert. ça provoque des débats, ça provoque des réactions. Il y en a peut-être qui ne seront pas touchés, mais il y en a qui seront touchés aussi. Peut-être que sur 100, il n'y en aura que 2, mais s'il y en a 2 qui sont touchés, qui leur tour, etc. Voilà. Si on était plus nombreux à pratiquer ça, ben ça ferait d'autant plus de traces qui laissent des traces. Donc le principe de l'exemplarité, non pas d'être parfait, etc., mais simplement de montrer que c'est possible de transgresser la loi d'une manière où c'est possible d'avoir un acte de résistance parce qu'il y a des choses qui sont injustes ou qu'il y a des choses qui sont dangereuses, et ben voilà, ça peut se pratiquer à visage découvert par la désobéissance civile ou par la clandestinité. Moi, pour moi, le collectif des boulonneurs, ça a la vertu d'être encore plus pédagogique et par des effets de rebond via la justice ou les médias. Mais je suis pour les actions individuelles, autocollants ou autres actions fantaisie ou de réponses créatives qui font progresser le débat.
One dove, you're the one I've been waiting for. Through the dark fall, the nightmares, the lonely nights, I was born curling fox in a hole, hiding from danger, scared to be alone. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy. Wonder, I'm the one you've been waiting for. Your skin, I am born again. I wasn't born yesterday. You were old and hurt. I was longing to be free. I see things you were too tired, you were too scared to see. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, 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 mercy. To offer me mercy, merci, merci. Wonder to bring me some peace. In starlight, you came from the other side to offer mercy, 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 mercy. Eyes open, shut your eyes. Eyes open. Shut your eyes. Eyes open.
Love.
muscle, forcing, bursting, stingy thingy into little me, me, me. But just ripple, said the cripple, as my jaw dropped to the ground. Smile, smile, it's true, I always wanted love to be hurtful. And it's true, I always wanted love to be filled with pain. So cripple pig was happy, screamed, I just completely love you. There's no rhyme or reason, I'm changing like the seasons. Watch, I'll even cut off my finger. It'll grow back like a starfish. It'll grow back like a starfish. Mr. Muscle gazing boredly, anti-checking time did punch me, and I sighed and bleeded like a windfall. Happy bleedy, happy bruisy. Softest games, fingers kiss the stream, mouth takes the blade of air.